Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Dany Laferrière est un écrivain japonais. C'est lui-même qui le dit, au fil des livres et des interviews, comme un pied de nez à toutes les personnes qui voudraient l'enfermer dans une seule et unique identité. Et effectivement, une certaine âme japonaise traverse toute son œuvre, à commencer par son dernier livre, Un certain art de vivre, qu'il a publié cette année, en 2023. Ce grand admirateur de Basho et de Mishima s'est saisi de l'haïku pour construire ce livre qui prend la forme de petites maximes commentées. Dany Laferrière nous entraîne, sans jamais les citer frontalement, dans toutes les villes qu'il chérit, Petit Goave, Port-au-Prince, Montréal ou encore Miami. Des rêveries rétrospectives qui nous montrent à quel point l'écrivain est un caméléon qui change ses couleurs autant qu'il le souhaite. Et depuis quelques années, l'homme s'est d'ailleurs mis au vert en revêtant le costume d'académicien. Élu en 2013, il y a tout juste 10 ans, l'écrivain a succédé à Montesquieu ou encore Alexandre Dumas-Fils en siégeant au fauteuil numéro 2 de l'Académie française. Et nous avons la chance de le recevoir au micro de Canal Académie. Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci de participer à cet entretien. Ce livre, Un certain art de vivre, est l'occasion pour vous d'évaluer tout ce qui s'est passé dans votre vie durant ce dernier demi-siècle. Et beaucoup, beaucoup de choses se sont passées. Vous dites que vous aviez besoin de sortir de cette autoroute de la vie en prenant, je cite, « le mauvais chemin au bon moment ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Quelque chose d'absurde. Et pour essayer de titiller l'esprit de la personne qui me lit. Mais en réalité, comme toutes les choses absurdes, il y a un moment de silence qui fait qu'on réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire, oui, prendre le mauvais chemin au bon moment? C'est une mauvaise surprise.
En tout cas, pour lire ce livre, vous êtes parti loin, très loin, au bout du monde, dans une ville que vous n'aimez pas. Pourquoi ?
Il ne faut pas me confondre avec le narrateur. Ce serait une erreur totale. C'est l'une des choses que j'essaie de faire dans toute ma littérature. C'est-à-dire de créer un narrateur. Je pense qu'à un moment donné, je dis, je suis cet enfant qui méprise les faits, qui ignore les formes et la logique en prend pour son grade. Je ne suis pas toujours le même. Je veux être quelqu'un d'autre à chaque fois. Et tout ça fait partie de la liberté que je prends en tant qu'écrivain. Un narrateur signale qu'il ne connaît pas Bornéo. Et peut-être que l'écrivain devrait signaler qu'il a fait partir le narrateur à Bornéo pour cela. Connaît-il Bornéo, lui, l'auteur? Enfin, je ne sais pas.
Cet auteur, le narrateur, est parti sur cette île avec juste de quoi écrire et puis un livre, Les Poésies de A.O. Barnabout. C'est un recueil de poésies de Valérie Larbeau. C'est un homme qui est assez peu connu aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est cet homme ?
Oui, il est peu connu peut-être dans le grand public, mais les gens de littérature, les lecteurs attentifs et aux écrivains de second rayon, qui sont souvent parmi les plus intéressants, le connaissent. Larbeau était un très riche poète, écrivain, critique, lecteur et traducteur aussi. Il a fait connaître des écrivains importants. Et l'un des écrivains qui m'intéresse, c'est Borges. Et Larbeau a été en premier lieu avec Drieux-La Rochelle à faire connaître Borges en France, à signaler cet écrivain étrange, mystérieux et si érudit, et qui a fait de l'érudition même la matière de sa littérature. Donc Larbeau a été connu parce qu'il est l'un des rares écrivains intellectuels qui ne dit que ce qu'il pense. Et il le dit que l'argent me met hors de toute veulerie, et donc il dit, j'ai pris cette phrase pour mettre en exergue de ce livre qui est aussi quelque chose qui me va bien, je ne consulte que mon goût. Donc Larbeau le fait, il a de l'argent, il peut publier sans passer par un éditeur, il publie ce qu'il veut, et seulement il a voulu faire bien, il n'était pas obligé. Et c'est un personnage assez singulier dans la littérature.
Et vous l'aimez beaucoup, à tel point que votre plume se mêle à la sienne dans ce livre. Vous commencez certaines phrases que vous terminez avec les mots de Valérie Larbeau. Qu'est-ce qui vous séduit dans son écriture ?
D'abord, cette manière de faire, c'est une manière particulière de citer que j'ai voulu faire. J'aime pas faire les choses comme ça, et comme tout le monde, si je puis dire, et sans insulter les gens. J'ai fait des citations nouvelles dans des livres d'art, de peinture ou de dessin. Au lieu de dire que c'est Léonard de Vinci qui a fait la Joconde, je dessine la Joconde moi-même. Je dessine les peintures, les extraits des peintres. Et pour moi, c'est une façon de citer les gens comme Cocteau citait des gens. Donc ici, c'est une façon de montrer un compagnonnage que je chemine avec Larbeau. Mais j'ai toujours des écrivains dans mes livres. Larbeau n'est pas l'écrivain que je préfère le plus, ou plutôt avec qui je chemine le plus souvent. Ce serait Borges, ou Bachot, ou d'autres, ou Baldwin, ou même Bukowski, et Diderot, par exemple, aussi. Donc, j'ai toujours des écrivains dans mes livres. Et ma littérature est une littérature de lecteur. Je suis un lecteur qui écrit.
Et vous consacrez même un chapitre à Borges, qui est un de vos écrivains préférés. Mais je voulais parler d'un autre écrivain qui traverse également ce livre, Mathieu Bachot, qui est un poète japonais du XVIIe siècle. Vous dites que c'est votre maître. Il aurait écrit plus de 2000...
Le narrateur dit qu'il est son maître.
Le narrateur.
Il arrive que ce narrateur se confronde avec moi.
Mais pas toujours.
Nous pouvons aimer le même poète, peut-être pas les mêmes poèmes.
Le narrateur dit que c'est son maître, et ce poète, Bachot, aurait écrit plus de 2000 haïkus. Est-ce que, alors là je m'adresse à l'écrivain, quelle influence Bachot a-t-il eu sur votre écriture ?
Les écrivains que je préfère ne m'ont presque jamais influencé. Borges ne m'influence pas. C'est des gens, précisément parce que je les aime beaucoup, qu'ils m'impressionnent beaucoup, je ne cherche pas à les imiter, ce serait une manière de les insulter. Et je les place plus haut. Et j'en suis fier de pouvoir placer des gens très haut au-dessus de moi. Je trouve que c'est une élégance qui manque. Les gens aiment bien tirer les étoiles et par terre pour les piétiner. Moi, non, je n'ai même pas osé rencontrer Borges quand on a voulu que je le rencontre. Et Bachot a une façon minutieuse de détailler des choses minuscules, mais sans rester pour autant trop longtemps sur le moment. Il court toujours après un futur présent. C'est ça que j'aime avec lui, cette course-poursuite que les enfants font, et cet appétit du présent, et avec une telle vitesse qu'on se demande si c'est lui qui invente le présent ou si c'est le présent qu'il invente. Donc ça s'appelle la vie.
Et cet appétit du présent, vous l'avez, vous faites constamment l'éloge de cet instant présent dans ce livre-là. Vous dites par exemple: je conjugue toujours mes émotions au présent, un présent de l'indicatif si brûlant que la vie ne me semble aujourd'hui qu'une longue enfance. Dany Laferrière, vous ne vous projetez jamais ni dans l'avenir, ni dans le passé ?
Ah non, je ne me projette pas dans le passé, mais je m'installe. Je ne crois pas que mon enfance soit dans mon passé. Je crois que les temps que nous avons vécus nous habitent à jamais, et tout ce que nous faisons par la suite, c'est lié à ces instants qui se sont logés en nous. Je pense pas qu'il y a un temps comme figé, comme si c'était un paysage, et quand on parcourt la campagne, on a passé tel petit village, donc il est derrière, et puis on va vers d'autres villages. Non, je pense qu'on ramasse plutôt les paysages en passant, qu'on les avale. J'ai dédié d'ailleurs dans ce livre, je me suis demandé au narrateur, que font tous ces crépuscules logés en nous ? Tout ce que nous voyons, tout ce que nous aimons, beaucoup plus que ce que nous n'aimons pas, se logent en nous et finissent par faire de nous ce que nous sommes. Je ne pense pas que nous laissons les choses derrière nous, il n'y a aucune raison. C'est une vision logique et cartésienne qui crée des temps comme ça, un peu linéaires, passé, présent, futur. Et heureusement, la langue française a inventé le futur antérieur, qui montre qu'il avait une petite fantaisie. Et sur le temps, et depuis ces jeunes gens, Copernic, ou Einstein, ou Newton, on a compris qu'il y avait peut-être une petite vibration qu'on a oubliée dans notre rapport avec le temps. Et l'être humain est encore plus complexe qu'on le croit.
Je voulais revenir toujours sur cet art du haïku, cet art concis et bref que l'on retrouve beaucoup dans vos livres. Mais vous, vous n'avez pas attendu de connaître la littérature japonaise pour vous mettre à ce style très bref, très court qui vous caractérise. Les premiers articles que vous écriviez, jeune adolescent, pour les quotidiens de Port-au-Prince notamment, ces articles-là étaient loués pour leur concision.
Oui, il faut dire, c'est le rédacteur en chef de l'époque, Lucien Montas, qui m'avait dit, si vous écrivez brièvement avec des phrases courtes, vous risquez de finir en une. Donc j'ai obéi, mais j'aime bien parce que je déteste surtout ennuyer les autres. Je peux accepter de m'ennuyer, mais ennuyer les autres, ça je n'aime pas du tout. Et je crois qu'il y a une sorte de paresse à laisser traîner comme ça des morceaux d'ennui dans sa vie comme dans son œuvre. On n'a qu'à les enlever. Et tout devient spasmique, tout devient comme ça, tout scintille, tout brille, tout vibre. Donc il n'y a aucune raison de laisser ça par paresse ou gonfler et un livre.
Vous l'avez dit, c'est un livre assez court, Un certain art de vivre. Et pourtant, il vous a pris plus de temps dans l'écriture qu'aucun autre livre. Pourquoi ?
D'abord parce qu'il est fait de tous les autres livres, d'une certaine manière. C'est un livre que j'ai fait parce que les gens me demandent partout quel livre choisir quand ils voudraient commencer à me lire, ou expliquer moi, des choses comme ça. Je me suis dit, il manquait peut-être cette petite clé toute minuscule qui est l'ensemble des émotions que j'ai un peu glanées et dans mes livres, qui parsemés, et comme ça dans mes livres, qui pourraient leur donner une idée des thèmes qui m'ont traversé d'abord, de ma façon de réfléchir, de cette tendance à mêler fiction et réflexion chez moi, et de faire une forme nouvelle, parce que je ne crois pas dans cette histoire du romancier qui doit être bête, ou du philosophe qui ne sait pas comment faire un récit. Je pense qu'on peut faire deux choses à la fois. C'est une vieille tradition. On peut faire deux ou trois choses à la fois. Fiction et réflexion a toujours paru un mélange plus fiction encore et plus réflexion encore que réflexion. Tout ça, faire comprendre tout ça dans ce livre, c'est une autobiographie d'une certaine manière.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, ce livre, c'est un peu votre manière à vous d'écrire vos mémoires. On pourrait dire ça ?
Je dirais même ma mémoire, parce qu'il y a quelque chose dans ma tête qui n'est pas forcément une réflexion sur ce que j'ai vécu, mais qui est la matière même. Oui, je crois. Je crois qu'il y a ma posture, ne pas ennuyer les gens, leur laisser de la place pour respirer, parce que le livre, chaque page, il y a trois petits textes assez brefs et beaucoup d'espace pour respirer, parce que je déteste les écrivains bavards qui vous donnent aucune chance. Quand vous voulez, disons, vous arrêter pour réfléchir, ils continuent la page, continuent à parler. Nous faisons tout ça, mais on a l'impression qu'il y en a qui ne laissent pas d'espace et aux lecteurs qui sont comme ça. Il y a des écrivains, des génies qui font ça. C'est pas un commentaire sur la qualité de l'œuvre, c'est un commentaire sur la qualité de la personne, sur sa manière de voir les choses. Moi, j'ai toujours aimé laisser réfléchir les gens et dans ce livre, je pense que j'ai atteint ce que je voulais montrer physiquement au lecteur ou à la lectrice, beaucoup plus dans mon cas, que je laisse réfléchir.
Et vous passez toujours par le roman ou la poésie pour vous raconter ou raconter le narrateur. Vous avez déjà songé à écrire un essai ?
Oui, j'ai écrit des essais, oui, bien sûr. J'ai écrit un livre qui s'appelle Journal d'un écrivain en pyjama, où je raconte les livres que j'ai lus, les livres que j'ai écrits aussi, et la façon d'écrire. J'ai donné 202 conseils, parce que des jeunes gens me demandaient souvent comment faire ceci, comment faire cela, et souvent ce sont des étudiants à l'université qui n'hésitent pas à vous appeler un dimanche soir chez vous. Dans ma naïveté, je pensais qu'ils voulaient vraiment apprendre ça, mais en fait, c'est parce que s'ils parlent à l'auteur, ils ont des points de plus auprès de leur professeur. Donc, c'est pour qu'ils ne m'embêtent plus. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Journal d'un écrivain en pyjama », comme ce dernier que je viens d'écrire, « Un certain art de vivre ». C'est pour qu'on ne m'embête plus dans les salons du livre à demander par quel livre commencer. Alors, je réponds souvent « Commencez n'importe comment, comme vous voulez ». Et que je ne vous connais pas. Moi, je me connais, j'ai écrit ce livre. Vous vous connaissez. Lisez les quatrièmes de couverture, flânez, et puis vous allez trouver votre chemin. De toute façon, on prend toujours un train en marche.
Faut suivre son intuition.
Oui.
On vous parle souvent de votre exil, de vos exils, car vous en avez eu plusieurs au cours de votre vie. D'abord, enfant, vous vivez un exil intérieur, puisque vous quittez Port-au-Prince pour aller vivre à Petit Goave avec votre grand-mère. Puis à 23 ans, votre vie est en danger, donc vous devez partir pour Montréal, une ville que vous n'avez pas choisie, mais dans laquelle vous avez vécu très longtemps. Mais il y a pire que tous ces exils géographiques. Vous dites que l'exil du temps est plus impitoyable que celui de l'espace. Mon enfance me manque plus cruellement que mon pays. C'est très beau et c'est très universel. Et tout le monde peut connaître cette forme d'exil.
Je pense tout le monde a une enfance. Et bon, l'enfance ne manque pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont connu des enfances extrêmement difficiles. Et même là, ça vous fait, puisque c'est en dehors de vos capacités, de votre volonté. Et l'enfance est un lieu incontournable. On ne peut pas éviter l'enfance. Donc, quand les gens disent « j'ai été adulte très jeune parce que, mettons, ma famille, on a eu beaucoup d'autres enfants, il fallait que je m'occupe des autres », mais on a tous une enfance, même courte, même brève, ce moment comme ça, un peu où tout jaillit, parce que l'enfance est un club exclusif aussi, comme l'adolescence, on échappe à l'adulte. C'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce à quoi vous pensez. Et quand vous pensez que vous n'avez pas eu d'enfance, c'est aussi votre enfance.
Il y a un prénom qui revient sans cesse dans ce livre, un prénom qui vous hante. Oki, c'est ce prénom. Il revient de nombreuses fois au fil des pages. Il est partout et en même temps, vous restez très mystérieux sur la personne derrière ce nom. Est-ce que vous savez vous-même qui est Oki ?
Quand on aime vraiment, je parle du narrateur, on croit que tout le monde connaît l'être aimé. Souvent, les gens qui décrivent les scènes d'amour, je parle sentimentalement, les émotions qui expliquent, qui décrivent leurs amoureuses ou amoureux me font rire en littérature parce que je crois que quand on est amoureux, le nom est emblématique. Il suffit de le chuchoter pour que tout monte à la surface. Je voulais voir si c'était possible et de créer un amoureux dont on tombe amoureux du nom lui-même. Et ce personnage Oki, dont le narrateur pense que l'absence est aussi forte que la présence. Il vit une rupture, il doit aller dans un pays qu'il n'aime pas, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas touriste, il peut rester à cuver sa douleur. Il ne voyage pas pour se distraire de sa douleur, il voyage pour précisément consommer sa douleur en solo, comme il dit. Donc il est là pour souffrir de cette rupture. Et en même temps, il découvre que l'absence de Oki est aussi forte que sa présence et que ce serait bête de croire que l'absence ne devrait pas exister. Si on aime vraiment, on aime toute la personne, sa présence comme son absence. Et puis, on n'a pas besoin de trop dire. Il y a une pudeur dans l'amour qu'on trouve rarement en littérature. D'ailleurs, les gens qui nous racontent leur amour avec trop de détails nous gonflent un peu.
Ce qui fascine le narrateur chez cette personne, c'est donc son mystère et puis sa capacité à déconstruire tous les repères qui nous sont familiers. Elle n'a pas d'identité fixe et elle nous fait toucher du doigt une sensation qui est proche de l'ivresse. C'est un peu ce que vous recherchez à faire aussi à travers votre écriture, Daniela Ferrière.
Oui, je pense que Oki peut être la littérature d'une certaine manière, c'est-à-dire il faut y aller vraiment avec délicatesse parce qu'il y a beaucoup plus de gens délicats qu'on croit. Et les gens délicats souffrent de cette vulgarité qu'on trouve parfois, même chez les très grands artistes, je ne dis pas seulement écrivains. C'est très dur pour eux. Les gens qui n'écrivent pas, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas écrire, ou c'est parce que, tout simplement, ils aiment lire. Donc, ils n'attendent pas des leçons des écrivains pour leur expliquer comment écrire. Ils ne veulent pas écrire, ils préfèrent lire. Il faut savoir ça, et c'est un art. Et tous les écrivains ne savent pas lire. Et ne lisent pas autant ou mieux que beaucoup de lecteurs. Donc l'écrivain doit avoir ça en tête et qu'il est en conversation avec quelqu'un de délicat et qu'il n'a pas besoin d'en faire trop, les choses minuscules. Là, je crois que l'œuvre de Borges parle ainsi. Éviter trop d'anecdotes personnelles. L'esprit, l'imaginaire de la lectrice s'embrase facilement. Moins vous mettez et plus vous donnez de liberté à l'autre de vous accompagner dans cette lecture, pas seulement d'être en situation de fascination, mais plutôt en situation, en action.
Pour revenir à ce travail d'écriture, d'écrivain. Ce qui vous intéresse beaucoup aussi, c'est le désordre, la soif de l'inconnu. Vous dites à un moment dans ce livre une phrase très belle, « Si on ne quittait pas sa peau de temps en temps, on deviendrait fou ».
Mais je crois que oui, et je crois que c'est ça qui singularise notre époque. On veut que chacun reste dans son vase, dans sa boîte. On met ça sur le plan politique, alors le moindrement qu'on cherche à contester ça, ça devient une affaire politique, mais c'est pas politique seulement. C'est pas, disons, dans la section politique que ça devient le plus grave. C'est dans l'émotion. Ça finit par toucher. Bien sûr, il y a beaucoup d'injustices à ce que les gens, par une certaine goinfrie, veulent tout avoir, ceux qui sont puissants s'emparent des vies des autres, de leurs émotions, de leur culture, les galvaudent, en font une bouillanimie, enfin. Et bien sûr, il y a cela, mais je crois qu'on perdrait trop si on chercherait à sanctionner les puissants sur tous les sujets. Et vaut mieux penser à ceux qui en ont besoin pour survivre. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent « J'ai l'impression qu'on me donne aucune place et que la moindre chose que je dis, c'est comme si j'avais dit quelque chose de terrifiant alors que c'est pas du tout mon idée. J'ai l'impression que je voudrais être tous les autres et qu'on m'empêche cela. » C'est vrai que les gens qui contestent ça le font en se disant « Tous ces gens comme ça, voraces, qui veulent s'emparer de tout, et du peu qu'on possède, et les pauvres. » On se souvient dans la Bible de ce type qui avait 99 vaches et qui voulait, pour avoir 100, il lui fallait la vache de son voisin, la seule vache de son voisin, oui. Mais si on élimine l'idée d'ouverture avec ça, il y a possibilité de faire un plus grand tort émotionnellement à un ensemble plus grand de gens.
C'est peut-être votre mère qui résume le mieux l'essence de votre travail. Un jour, elle vous a dit, perplexe qu'elle ne savait pas si elle aimait vous lire, car votre écriture a quelque chose de déroutant. Est-ce que je peux vous laisser vous lire l'extrait, ce qu'elle vous répond ?
J'espère que j'arriverai. Elle éprouve à me lire, c'est ce que vous venez de dire. C'est assez étrange et je ne sais pas si j'aime ou pas. On a l'impression d'être à Petit Gouave, alors que le paysage est celui de Port-au-Prince. On rencontre un inconnu et on croit le connaître. On croise quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très bien et qui nous jette un regard d'étranger. Eh bien, avec conclu ma mère, avec tout le tact imaginable, il faut imaginer ma mère, des fois je me sens comme perdu à te lire. J'ai écouté Bouche Bée et j'en ai été bouleversé. Ma mère venait de résumer de manière si précise ce que je crois être l'essence de mon travail. J'aurais bien aimé que des critiques ou des lecteurs prennent leçon de cette délicatesse et de ma maman.
Effectivement, on touche du doigt dans ce que vous écrivez, l'ivresse, le rêve. Et justement, sur le rêve, vous rêvez beaucoup ?
Oui, mais les rêves restent dans un seul petit territoire. D'abord, un seul temps, souvent, 90% c'est mon enfance, et 90% aussi, ça se passe à Petit Gouave.
Effectivement, vous dites, j'ai deux vies, ici et là-bas, et je croise rarement là-bas les gens que je connais ici. Qui croisez-vous dans vos rêves, les personnages de votre enfance ?
Ah non, ça, je ne peux pas vous dire. J'avais dit qu'on ne touche pas à mon sommeil. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent peuvent penser ici et là-bas veut dire là où je suis, mettons à Paris ou à Montréal, là-bas ou à Port-au-Prince ou des choses comme ça. Non, je parlais du sommeil. Et c'est vrai que je dors pour aller ici ou pour aller là-bas. Et je ne sais même plus qui est ici, qui est là-bas, mais ce dont je suis sûr, c'est que mon sommeil et mes rêves, je les garde.
Oui, le sommeil, c'est sacré chez vous. Et d'ailleurs, vous lisez comme vous rêvez. Allongé. Vous dites que vous êtes un lecteur horizontal.
Oui, je ne suis pas le seul. Je lis couché dans mon lit, je lis dans ma baignoire. Je veux dire, je ne peux le faire qu'à l'horizontale. Mais j'ai toujours questionné la posture humaine. On fait beaucoup de choses, d'après moi, à contre-temps. Et la lecture à l'horizontale, je comprends. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les gens se sont mis debout. La position verticale me semble assez, pas surfaite, mais ça ne correspond pas avec le projet initial. Normalement, c'est à quatre pattes qu'on devrait être, pas parce que la tête se trouve bien mieux placée. Là, debout, elle est vraiment en situation de risque. Vous savez, on a mis tous les sens dans un espace étroit, les deux yeux, le nez, la bouche, l'oreille, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. C'est mal fait, en fait. C'est très mal fait. On devrait un peu mettre les yeux sur les épaules, le nez sur le nombril, et la bouche là où on veut, mais je veux dire éparpiller un peu les choses pour qu'on soit pas exposé à tout bout de champ. N'importe quel coup sur le visage, vous perdez un sens. Et donc je me suis dit peut-être qu'il fallait rester à quatre pattes. Et à quatre pattes, on n'aurait jamais eu l'idée de domestiquer le cheval et on n'aurait jamais eu l'idée de se déplacer très vite. Donc on n'aurait pas inventé la voiture. Finalement, on aurait été moins con.
Donc à quatre pattes ou allongé dans votre lit,
oui.
Ou dans une baignoire. Un mot quand même sur la baignoire, parce que ça revient très souvent dans votre œuvre. C'est un élément très important de votre vie. On se souvient de la baignoire rose de Montréal. Pourquoi la baignoire, c'est aussi important chez vous?
Je suis un enfant qui a été élevé par des femmes. Ma mère, mes tantes et ma grand-mère, et qui a été exilée à 23 ans. Et pour moi, la baignoire, c'est le ventre rond de ma mère et l'eau, c'est le liquide amniotique. Et l'espace fermé qui est à l'intérieur, c'est l'espace de ma mère. C'est pas la baignoire et son ventre, mais vous savez, une salle de bain, c'est la chose la plus magique qui soit. Hein. C'est toujours mieux éclairé que partout. Et dans les hôtels même, on prend soin de chauffer la salle de bain un peu plus. C'est fait pour qu'on y reste 9 mois au moins.
Vous parliez des sens il y a quelques instants et votre livre est parsemé d'odeurs. L'odeur d'oki, l'odeur du rhum et puis l'odeur du café. Le café, c'est l'odeur de votre enfance?
C'est l'odeur de mon enfance. Je crois quand même que c'est la boisson qui est la plus parfaite. C'est celle où l'odorat correspond au goût. Le mot café, on sent bien que l'odorat et le goût, c'est-à-dire l'odeur du café, le goût du café, coïncident. Un bon café, c'est un café où l'odeur qu'on ressent, quand on le goûte, on retrouve l'odeur dans sa bouche. Les autres boissons, je sais pas, le whisky, il peut avoir meilleur goût qu'à l'odeur. Il y a le rhum à meilleure odeur que le goût parfois. Il y a des choses qui sont un peu entre odeur et goût. Alors que le café, c'est la boisson qui nous rend intelligents, puisque c'est la boisson qui a été contestée sous la monarchie, disant que ça pousse à la révolution, ça pousse à penser. Et c'est la seule boisson qui a donné le nom à l'endroit où l'on boit toutes les autres boissons, dans un café.
Il y a des odeurs et des couleurs. Il y a un chapitre qui s'appelle « L'art des couleurs » dans votre livre, « Un certain art de vivre ». Vous admirez beaucoup la peinture. Est-ce qu'elle vous inspire plus que la littérature?
Autant j'ai lu plus de livres que j'ai vu de peinture. Je suis allé plus souvent dans une librairie, plus souvent que dans une bibliothèque, bien sûr, et que dans un musée. Mais la peinture, pour moi, n'est pas affaire de musée, c'est affaire de révolution. La plus grande révolution à laquelle j'ai assisté, c'est celle de la peinture haïtienne. Et l'exemple en est donné par Malraux, que j'avais croisé à Port-au-Prince, que j'avais accompagné d'ailleurs pendant un bref moment, quand il était venu, invité par Tiga et Maud Robard, et pour, disons, j'allais dire, adouber les peintres de Saint-Soleil. Et d'une certaine façon, Malraux, qui est un artiste, un type un peu fou, et avait dit cette chose. Il a dit « J'ai inventé les maisons de la culture quand j'étais devenu ministre de la Culture en France pour que les paysans français, regardant un tableau de Georges Braque, ne rigolent pas. » Aujourd'hui, je suis à Port-au-Prince, c'était des paysans qu'il était venu voir peindre, et ce sont les paysans qui font de la peinture, et c'est à Braque de ne pas rigoler. Voilà une révolution. Quand on sait que la peinture a changé beaucoup de place en Europe, où les gens qui ne font pas de la peinture font des croûtes et estiment qu'ils font des croûtes et vendent comme étant des croûtes, alors qu'ils ont plein de talent. Ils auraient pu être n'importe quel grand peintre, mais ils prennent, c'est comme il y avait une place pour eux. Et alors qu'en Haïti, n'importe qui fait de la peinture et ça peut sortir n'importe comment. Ça peut être une œuvre magnifique, comme ça peut être une œuvre à répétition et commerciale. Donc, c'est la révolution que la peinture m'a apportée et que je voudrais faire en littérature.
Votre premier choc esthétique, vous l'avez vécu à Haïti, justement, à 17 ans. Vous tombez devant une toile d'Hector Hippolyte, qui est un artiste, un peintre haïtien. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble cette toile ?
Oh là là, vous savez, je suis rentré par hasard dans un musée, oui, à cet âge-là, 17 ans, le musée du Collège Saint-Pierre, Et j'ai été impressionné de voir la bibliothèque que je connaissais, où il y a les livres. Là, c'était les tableaux. Il n'y avait pas beaucoup de musées en Haïti. Et ce musée-là était bien placé au centre de la ville, à côté du Champ de Mars. Et j'ai vu tous les grands peintres primitifs. Je suis tombé, c'est vrai, sur un tableau d'Hector Hippolyte. Et c'est un tableau, je crois que c'est le dernier tableau d'Hector Hippolyte. Je ne me souviens pas bien, c'est Grande Brigitte. Grande Brigitte, c'est une sorte de déesse du vaudou, j'allais dire une demi-déesse. Et ce tableau est fait à moitié. C'est la première fois que je voyais un tableau dans un musée. C'était la première fois qu'il était fait à moitié, moitié peinture, moitié dessin. Le tableau était inachevé. C'est le dernier tableau d'Hector Hippolyte. Et donc, j'avais l'impression que le peintre allait venir à tout moment pour terminer son travail, sauf qu'il était mort depuis des décennies. Et il y avait quelque chose de très émouvant dans ce tableau inachevé, qui disait qu'il est resté peint toute sa vie, que ça n'avait pas été une lubie, c'était une manière de vivre.
Et très vite, vous-même, vous allez écrire sur la peinture. Vous publiez de brefs portraits de peintres pour le quotidien Le Nouvelliste. Et vous dites qu'écrire sur la peinture, c'est un acte subversif.
Ah non, c'était pas du tout par rapport à la peinture elle-même. C'était qu'en Haïti, c'était la dictature. Et tous mes camarades qui étaient aussi jeunes que moi étaient contre le gouvernement, avec raison d'ailleurs. Je travaillais dans un hebdomadaire qui était contre le gouvernement. Mais moi, comme toujours, je faisais ce que je voulais. Donc, pour moi, c'était parler de littérature, parler de cinéma et écrire sur la peinture. J'étais à contre-courant. Et mes amis me demandaient pourquoi il n'y a pas une colère qui sort de ta peinture. Je leur disais, c'est parce que vous me lisez mal. En effet, le gouvernement avait bien lu, puisque un des membres du gouvernement m'avait dit, moitié à la blague, c'est très subversif ce que vous faites. Alors ce qui était subversif, c'était l'idée que je puisse sortir du cadre de dictature, de victime bourreau. Dictature, dictateur, vivre sous la dictature, c'est être obsédé par le pouvoir, par Duvalier. Je voulais lui expliquer qu'il y avait une vie en dehors de lui et que politiquement, oui, concrètement, oui, il avait une place, mais dans mon imaginaire, non, jamais.
C'était un moyen d'être dans l'opposition, en quelque sorte.
C'est là, c'est la plus extrême opposition, c'est-à-dire refuser de céder sa vie.
Vous dessinez vous-même, vous avez publié plusieurs romans dessinés. Est-ce que ça vous arrive de peindre aussi sur de grandes toiles ?
Non, pas encore. Non, je ne me sens pas peintre du tout. Je connais trop de peintres que j'aime. En fait, je ne fais rien en maître avec un savoir. Je ne fais pas de romans, je ne sais pas ce que je fais. Je parle des écrivains, je fais des petits textes. Je suis un amateur, un peu comme Valérie Larbeau. Il n'y a rien que je maîtrise. Je ne fais pas de peinture, je signale les peintres, je n'ai pas de profession. Je ne m'accroche pas à une forme donnée ni à une manière. C'est-à-dire, tout ça, pour moi, c'est une façon d'être dans la vie, c'est un art de vivre.
Quelques mots pour finir sur votre élection à l'Académie française. Vous avez été élu en 2013, il y a 10 ans tout juste. Et vous nous faites un peu peur dans ce dernier livre, puisque vous dites à la fin, en faisant de quelqu'un d'immortel, on le rend plus mort que jamais. Alors, rassurez-nous, vous ne vous sentez pas complètement mort aujourd'hui?
Au contraire, je crois que l'Académie m'a appris à mourir. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que le public ne sait pas, c'est ça qui est immortel. Parce que l'académicien, c'est celui qui voit sa mort tout le temps. Parce que comme c'est jusqu'à la mort qu'on est académicien, on est avec des gens qui peuvent être très âgés aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas l'air du tout de... Personne ne converse sur la mort à l'académie, ni même parle de la santé. Alors que les gens, les jeunes gens, dès 40 ans, ils commencent à parler de questions de dos et ils prennent leurs pilules en pleine séance de dîner de façon presque obscène à rappeler qu'ils sont malades. Et alors que j'ai 10 ans à l'académie, j'ai jamais entendu personne parler de leur maladie alors qu'ils ont tous des maladies. Cette élégance-là me plaît et l'idée que tout le monde sait qu'il va mourir puisque précisément tout le monde a des preuves que les gens meurent à l'académie, et pourtant on n'en parle pas. Cette élégance, oui, ça me touche. Donc un académicien, c'est quelqu'un qui est immortel parce qu'il est l'un des rares à savoir qu'il va mourir.
Je vais terminer sur un passage. Un passage du livre, à un moment vous dites « Je rêve du jour où j'entrerai dans un livre pour ne plus jamais en ressortir, mais il faut savoir dans quel livre on voudrait finir ses jours ». Est-ce que vous savez dans quel livre vous voudriez finir, Daniela Ferrière?
Vous voulez que je sache la seule chose surprenante, la seule petite surprise qui ne dépend pas de moi? Non, je ne peux pas savoir. De toute façon, c'est ça, la chaise musicale. et quand la musique s'arrêtera, si vous êtes assis ou debout. Une journée est parfaite quand on se met subitement à danser avec la chaise sur laquelle on était assis. La seule intelligence qui vaille la peine, c'est celle qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre et de ressentir sa douleur et son humiliation avant de charger comme un taureau qui voit rouge. Je conjugue toujours mes émotions au présent, un présent de l'indicatif si brûlant que ma vie ne me semble aujourd'hui qu'une longue enfance. Quand les gens me parlent, je vois qu'ils s'adressent à ma douleur, alors que je m'accroche à la moindre mouche vivante. Mon art poétique se résume à la roue qui, pour avancer, doit tourner sur elle-même. En fait, on meurt d'une chose ou d'une autre. La seule raison, c'est qu'on est mortel. Mais la bonne question, c'est pourquoi on vit. Pour qui ?
Eh bien, un grand merci, Daniela Ferrière, d'avoir accepté de vous replonger dans quelques-uns de vos souvenirs avec nous. Je rappelle le titre de ce livre, « Un certain art de vivre », disponible aux éditions Grasset. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un peu un concentré de toutes vos œuvres. Et les perles de poésie que vous disséminez dedans parleront vraiment à tout le monde, j'en suis convaincue.
Oui, merci de dire ça, parler à tout le monde, parce que j'ai eu un petit portrait de Cocteau que j'aime beaucoup. Et dans ce portrait où Cocteau dépasse, là on voit qu'il est Cocteau, il est plus élégant de loin que Warhol, qui peint un peu les visages de soit de la Joconde ou d'Elizabeth Taylor. Mais Cocteau fait un autoportrait et est habillé de façon très classique. Moitié du visage est dessiné au crayon et l'autre, c'est à peu près lui-même, c'est très beau. Et son front est découvert et c'est écrit sur son front, écrivez lisiblement. Je crois qu'il n'y a pas d'autres conseils à donner aux gens qui écrivent. J'ai fait 300 pages, 350 pages pour donner des conseils. Et là, Cocteau arrive et il le fait sur son front d'ailleurs. Ça veut dire, lisez ça, écrivez lisiblement. Il n'y a aucune raison de ne pas se faire comprendre. Ce n'est pas élégant.
Merci beaucoup, Daniela Ferrière.
Merci.
Canal Académie.